Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
En ce mois d'octobre, nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marc Ayé. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence Lourdes Pyrénées. Bonjour Violaine Ricourt-Dumas.
Bonjour,
et
à,
bonjour
tous.
À tous les auditeurs de Radio Lapourdi Iratia. Le mois d'octobre pour l'Église universelle, c'est le mois de prière pour la mission. Alors, je vais citer un chiffre pour commencer. En 2023, il y a 1,378 milliards de catholiques dans le monde. Et en 10 ans, donc de 2013 à 2023, il y a eu plus 124 millions de catholiques. L'Église est en pleine expansion, malgré les signes que l'on voit en Europe. Alors, Monseigneur Ayé, vous avez participé au congrès Mission dimanche dernier. C'était le 28 et 29 septembre. Comment ça s'est passé?
Je crois que de l'avis de ceux qui ont participé à la totalité du congrès Mission, ça a été une expérience magnifique. Il y avait 250 inscrits, et il y a forcément aussi des gens qui se sont greffés sur ce congrès Mission pendant une partie ou l'autre, puisque ça a commencé le samedi en début d'après-midi, ça a terminé le dimanche à 16h30, après une plénière assez belle à laquelle j'ai participé. Et ça a été d'ailleurs la plus petite paroisse qui a organisé un congrès Mission local de toute la France. Ce qui est assez intéressant, parce qu'une paroisse, le Navarin, c'est une petite ville de 1000 habitants, et c'est à l'origine donc d'un couple qui est arrivé dans le diocèse il y a 2 ans, et qui est au village de François, qui est en train de se constituer au Dox avec d'autres couples, et d'autres paroissiens, qui a monté ça de toutes pièces. Et de fait, ça a été, et c'était très local, très diocésain finalement, parce que la plupart des intervenants étaient du diocèse. Que ce soit les témoins, même s'il y en a d'autres qui sont venus d'ailleurs aussi, bien sûr, mais et les initiatives aussi missionnaires qui peuvent être portées par des communautés, aussi par des paroisses dans le diocèse. Donc moi, j'ai été très admiratif. J'ai participé à la messe, non pas de clôture, puisque c'était le matin, mais la messe d'envoi, qui était une messe extrêmement vivante, beaucoup d'enthousiasme, très intergénérationnel, beaucoup de jeunes. Il y avait les routiers scouts qui s'occupaient des enfants, il y avait des membres de Cléophas, enfin il y avait beaucoup de forces vives du diocèse, et je trouvais que c'était une belle vitrine en tout cas de ce dynamisme missionnaire que nous essayons de mettre en œuvre modestement dans le diocèse. Donc ça vraiment, c'est une réussite, et qui vient de laïcs responsables qui se sont levés dans cette paroisse de Navarinx. Et le curé était très heureux de pouvoir suivre ce mouvement qui a été embrayé par ses laïcs.
C'est la semaine missionnaire mondiale qui approche du 13 au 20 octobre. Le thème, c'est un verset de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 22, verset 9. Allez et invitez tout le monde à la noce.
Alors ça a été intéressant d'ailleurs pour ça, parce que puisque vous donnez ce thème de la semaine mondiale des missions, parce que le samedi soir, ils ont eu l'idée, avant un repas partagé, où ils étaient 250 personnes d'ailleurs, dans le nouveau centre paroissial que j'ai inauguré il y a quelques mois, ils ont eu l'idée d'envoyer les congressistes dans les bars de Navarinx. Et ainsi, rentrer en contact avec les gens qui étaient au bar. Le samedi soir, il y a beaucoup de gens au bar. Et les inviter. Et pas mal de gens sont venus finalement prendre le repas, parce que le repas était gratuit. Venez, on vous invite. Il y avait une grande paella, un peu géante. Et donc, du coup, ça a été missionnaire aussi de ce côté-là.
Dans notre diocèse, justement, vous avez lancé un groupe d'études sur la transformation pastorale et missionnaire. On est dans la même idée d'aller dans cet élan missionnaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça veut dire et où ça en est, puisque je crois que ça fait à peu près un an que le groupe existe, et est-ce qu'il y aura des conséquences concrètes?
Alors, si vous voulez, d'abord, c'est la feuille de route, si je puis dire, que le pape François nous a donnée dans son exhortation apostolique La joie de l'Évangile, où il appelle à une transformation pastorale, missionnaire, de nos communautés chrétiennes, qu'on met en œuvre, qu'on essaie de mettre en œuvre aussi depuis un certain temps. Il y a eu l'époque où les prêtres allaient se former aux sessions pasteurs selon mon cœur. Nous avons monté le parcours Cléophas exactement dans cet esprit, pour essayer de susciter parmi les fidèles laïcs envoyés par leur curé ou leur chef de service une nouvelle conscience missionnaire, pour porter localement dans les paroisses des initiatives missionnaires en direction de ceux qui sont loin. C'est exactement le thème, aller au carrefour, appeler tous ceux qui inviter les à la noce, quoi, finalement. Et donc ce groupe, qui est quand même assez diversifié, hein, où il y a des prêtres, où il y a plus de laïcs, évidemment, soit dans les services pastoraux, même administratifs, parce qu'il y a une comptable qui fait partie du groupe, qui a voulu y participer, des gens qui sont au service des plus pauvres, des gens qui sont des simples paroissiens, des jeunes pros, enfin bon, un groupe qui compose le plus stablement une quinzaine de personnes, même si au départ il y en a un peu plus sur le papier, ils ne viennent pas tout à chaque rencontre, mais le tout c'était d'essayer de définir une vision pastorale à partir de l'existant. Il y a d'ailleurs eu pendant un temps toute une enquête qui a été faite par les membres de cette équipe auprès des curés pour savoir où ils en étaient, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils souhaitaient dans leur paroisse, et donc définir une vision et quelques priorités, puis quelques pistes concrètes. Mais il est bien évident que ce travail est un travail qui sans doute est une démarche synodale, finalement, parce que tout le monde est engagé de toutes les états de vie dans le diocèse. Mais il faut aussi que les prêtres puissent se l'approprier, éventuellement. Et c'est pourquoi la prochaine rencontre que nous avons, qui sera la conclusion de toute cette première année de réflexion, consistera à préparer une journée à l'intention des prêtres du diocèse, pour voir comment ils réagissent, comment ils peuvent s'approprier certaines pistes que l'on proposera pour engager ce travail de transformation missionnaire de notre diocèse.
Alors, quelle est la vision pastorale qui ressort de ce travail, de ce groupe ?
La vision, si vous voulez, c'est toujours un peu la même chose que je dis déjà depuis des années. C'est recentrer nos communautés sur le Christ, à travers la parole de Dieu, ce qui a été aussi le fruit, je pense, de l'année de la foi et de l'appel, dont on aura l'occasion de reparler, sur le Christ présent dans les sacrements et dans la communauté, qui se resserre autour du Christ, qui vraiment est au centre de la vie chrétienne. Ce n'est pas une invention, ça. Ce n'est pas une nouveauté. C'est vrai dans toutes les paroisses, dans la vie de l'Église. Et à partir de là, une Église qui est en sortie missionnaire et qui veut témoigner de sa rencontre avec le Christ, de sa manière de vivre de l'Évangile et du Christ auprès de ceux qui sont plus loin et qui sont plus éloignés. Au fond, c'est ça la vision. C'est comment on va témoigner de l'Évangile auprès de ceux qui ont déserté nos communautés, qui peut-être sont catholiques, qui ont été déçus par telle ou telle chose, et comment notre communauté, par un peu plus d'authenticité par rapport à la foi, un peu plus de charité fraternelle aussi, de conviction que le Christ vraiment donne la vie, comment on va témoigner auprès de ceux qui sont loin par indifférence ou qui ont été déçus ou qui se sont éloignés, etc.
Ce qui peut être difficile aussi, c'est d'aller à la fois aux périphéries et de s'évangéliser les uns les autres au sein de nos communautés de pratiquants. Il ne faut pas oublier aussi ceux qui ne sont pas aux périphéries.
Donc je pense que justement l'année de la foi et de l'appel était un peu centrée là-dessus. C'est-à-dire comment nous, qui sommes le petit reste dans nos communautés, comment on s'évangélise davantage en approfondissant notre rencontre avec le Christ, notre formation même, au service de ceux qui sont loin.
Alors la mission, elle n'est pas facilitée quand même dans une société toujours de plus en plus sécularisée. Quand on apprend par exemple, puisqu'on apprend sur l'abbé Pierre, c'est pas très porteur pour l'Église.
C'est évident. Et ce sont des personnalités qui ont quand même marqué l'Église par leur engagement, et on ne peut pas lui retirer tout le bien qu'il a fait et la manière dont il a conscientisé toute une société française et au-delà à la question de la précarité, de la pauvreté. On apprend des choses évidemment qui nous blessent et qui nous scandalisent, et qui scandalisent aussi ceux qui ont cru en ce personnage qui était mis même sur un piédestal comme la figure même du prêtre au service des pauvres. Mais il ne faut pas que ça nous scandalise, nous arrête plus que ça. Je le redis, il faut d'abord penser aux victimes, bien entendu, et et penser à leur reconnaissance et leur réparation. Et ça, c'est un travail dans lequel l'Église est bien engagée, je pense, aujourd'hui. Mais il faut voir que malgré ces scandales, il y a aussi beaucoup de belles choses qui se passent. Il y a beaucoup de belles figures de chrétiens et de prêtres qui rayonnent, peut-être pas dans les médias, mais en tout cas dans la proximité de ceux qui les côtoient, dans nos communautés chrétiennes et ailleurs et au-delà. Et il faut se dire aussi que malgré cela, le nombre d'adultes et particulièrement jeunes qui frappent à la porte de l'Église pour demander le baptême ou la confirmation ne cesse d'augmenter. Il faut regarder ça aussi. Il faut penser aux victimes, mais pas focaliser sur les figures qui sont en effet de contre-témoignages évident de l'Évangile.
La 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques se tient actuellement à Rome. Le thème, c'est « Comment être une église synodale en mission ?» Ça rejoint un peu ce que vous avez lancé à l'occasion de l'année de l'appel et de la foi. Alors comment vous suivez le Synode? Qu'est-ce que vous en attendez et comment vous le vivez?
C'est-à-dire que je me rappelle que le cardinal Aveline, rencontrant les jeunes prêtres des provinces de Bordeaux, Toulouse, Montpellier, il y a quelques mois à Lourdes, leur disait le synode, d'abord vivez le synode là où vous êtes. Et je crois que finalement c'est ça qui est important. Moi je me retrouve très bien dans ce thème du synode, communion, participation, mission. C'est ce que nous entendons depuis des décennies. Je cite souvent le pape Jean-Paul II qui disait que l'Église est un mystère de communion missionnaire. Et quand je regarde ces trois termes, communion, participation, mission, qu'il faut bien prendre dans l'ordre, qu'il faut bien comprendre ensemble, et qui sont comme trois planètes qui sont alignées vers la mission. La mission, c'est vraiment l'objectif du synode, c'est-à-dire annoncer l'Évangile, qui est la mission de l'Église, parce que l'Église existe pour évangéliser, comme disait encore une fois Paul VI dans l'exhortation Evangelii Nuntiandi, dont je parlerai largement cette année. Et donc il ne faut pas focaliser sur l'un ou l'autre aspect. On focalise beaucoup sur la participation, avec peut-être même des propositions que le pape lui-même rejette, comme il a fait à Bruxelles. On l'a encore bassiné sur le sacerdoce des femmes, etc. Participation de tous, on est tous co-responsables de la mission, donc chacun, dans son état de vie, dans sa grâce, la part qu'il a à l'Esprit Saint, est appelé à participer, parce que, comme je le répète souvent, l'Église est vraiment un peuple de prophètes, de prêtres et de rois. Mais on ne peut pas prétendre revendiquer sur une participation qui serait pas suffisante et pas seulement reconnue dans l'Église, si on n'est pas en communion, qui est la source de toute participation, et si le but n'est pas d'annoncer l'évangile du salut aux hommes d'aujourd'hui.
Un journal titré « Le synode le plus féminin de l'histoire ». Actuellement, il y a 50 femmes qui auront droit de vote pendant cette session du synode à Rome.
Mais c'est très bien. Je crois que là, le pape est maître du jeu, et je pense que c'est un signe qui est intéressant, parce que comme il le précise souvent, la femme n'a pas besoin d'être cléricalisée, mais valorisée. Les femmes sont quand même très présentes dans les vies de l'Église, et même à des postes de responsabilité au Vatican déjà, dans la Curie romaine, mais dans nos diocèses. Moi, j'ai quand même pas mal de femmes qui sont responsables de service, donc qui sont quand même présentes dans la vie de l'Église, et même à des postes de responsabilité. Et donc, je pense que c'est un signal qui montre simplement que le vrai visage de l'Église.
Nous vous retrouvons dans un court instant, Monseigneur Haye.
Radio Lapourdi Iratia, votre radio chrétienne en Pays Basque.
Monseigneur Marc Haye, nous continuons avec vous cette émission diffusée sur Radio Lapourdi Iratia et sur Radio Présence Lourdes. Nous allons parler des vocations, de l'année de la foi et de l'appel que vous avez lancée l'année dernière. Cette année a commencé avec une épreuve pour nous tous, avec le décès prématuré de l'abbé Alexandre Blodeau, qui était donc sur les paroisses autour de Nailles. Ces obsèques ont été, selon votre expression, un moment de grâce, on peut le dire.
Oui, c'est sûr que la disparition de ce jeune prêtre, qui avait tout juste 3 ans de sacerdoce, et donc 3 ans de ministère, que j'ai comparé d'ailleurs aux 3 ans de ministère public de Jésus, qui en 3 ans a sauvé le monde. Bon, et lui, il n'est pas le sauveur du monde, bien entendu. Mais ce jeune prêtre, c'est sûr qu'on a été tous bouleversés. Moi, j'étais évidemment bouleversé dans mon cœur d'évêque et mon cœur de père, parce que l'évêque est le père de ses prêtres, l'ami et le frère, mais et particulièrement sans doute de ceux qui sont plus jeunes et qui l'a ordonné. Je n'ordonne pas des prêtres pour les enterrer 3 ans plus tard. C'est vrai que c'est toujours un moment important pour l'évêque d'enterrer, d'accompagner ses prêtres dans sa Pâque. Depuis que je suis évêque, il y a au moins 200 prêtres qui sont décédés. Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'enterre des prêtres qui ont accompli une vie, un ministère fidèle et dans la durée, et qui n'ont pas été ordonnés par moi, qui sont ordonnés par mes prédécesseurs. C'est vrai que j'ai ordonné un prêtre il y a 3 ans et qui a accompli toute sa formation au séminaire des 5 heures de Jésus de Marie avec beaucoup de paix. Il a choisi ce diocèse après un vrai discernement de maturité humaine et spirituelle, et il a fait ses sept ou huit années de formation ici. Donc j'ai pu l'accompagner avec tous ses formateurs et l'accompagner aussi dans son expérience de vie fraternelle avec les deux autres confrères, Paul de la Passe et Maxime de Main, qui ont été évidemment très, très déchirés aussi, hein, le cœur déchiré, comme disait l'abbé Paul, par la disparition d'un frère qui comptait beaucoup, parce qu'il vivait une expérience qui était un peu comme un laboratoire aussi de ce que je souhaiterais pour les prêtres, de vivre cette vie fraternelle au service de la mission. Et donc ça a été un événement qui nous a tous évidemment stupéfait, sidéré, mais qui en même temps, je le vois bien dans la foi, à travers aussi tous les témoignages et puis la manière dont il a été accompagné, non seulement par sa famille, qui a une foi remarquable, et qui lui ont transmis d'ailleurs cette foi, mais par ses paroissiens, par les prêtres, il y a plus d'une centaine de prêtres, je pense, présents aux obsèques. Pendant 3 jours, il a été veillé dans une chapelle ardente dans l'église Saint-Vincent de Naye par les paroissiens, jeunes aussi du groupe des jeunes de Naye, accompagnés par l'abbé Maxime de Minck, mais aussi Alexandre, qui était toujours présent. Maxime ne faisait aucune activité, grande activité, sans inviter Alexandre avec eux. Et Alexandre, qui était un garçon assez effacé, les mots qui reviennent le plus, c'est la douceur et l'humilité, qui a eu un impact spirituel qu'on découvre tous les jours davantage. Et donc, moi je me dis aussi, c'est une belle figure de prêtre, de jeune prêtre.
Un prêtre tourné vers le ciel.
Tourné vers le ciel, oui.
Il parlait, je crois, assez souvent du ciel.
Oui, c'est vrai. Oui. Et de la communion des saints. Et aussi beaucoup de la croix. Il avait, le dimanche précédent sa mort, sur la veille de sa mort, il avait prêché sur la croix glorieuse, et il en avait parlé à ses parents longuement le dimanche soir, alors que d'habitude il appelait ses parents le lundi soir. Mais il leur avait refait l'homélie, comme si une espèce de testament spirituel qu'il donnait à sa famille et puis à ses paroissiens, qui ont été très marqués d'ailleurs par cette homélie. Et puis le Seigneur l'a pris. Voilà. Alors moi je me suis dit, il y a un événement de grâce. Lui-même disant dans une interview qui est dans le film sur le séminaire Novice Offerte, là, qu'il était rentré au séminaire au moment où il fallait, que Dieu avait prévu. Ben, je me suis dit, il est mort, même si humainement c'est incompréhensible, au moment où Dieu voulait. Sans doute que, et j'en ai la conviction, il a un plan, le Seigneur a un plan au ciel pour lui et pour nous. Et en tout cas, ça me semble être un bel exemple pour les séminaristes et les jeunes, les jeunes prêtres. Et bon, voilà, je pense.
Vous pensez qu'il va intercéder pour nous, pour les vocations, pour
Je pense. Et plusieurs prêtres qui m'ont dit, vous devriez commencer à le faire prier. Alors j'ai dit qu'on va attendre que le temps de l'émotion soit passé. Mais c'est vrai que les témoignages qu'on reçoit sont tellement forts, pas seulement émotifs, qu'il y a sûrement quelque chose de... J'ai parlé d'une graine de sainteté, une graine de saint. Je ne crois pas être loin.
On peut prier une personne sans qu'elle soit en cours de béatification.
Bien sûr.
C'est ça, la communion des saints, en fait.
Oui, puis obtenir des grâces, peut-être même des miracles, qui permettront un jour d'ouvrir peut-être un... Mais là, je m'avance un peu.
La prière pour les vocations est au cœur de l'année de la foi et de l'appel que vous aviez lancé l'an dernier, qui s'est achevé avec la fête de Pentecôte cette année, où on en est un peu de la pastorale des vocations dans le diocèse et plus largement, où en est-on au séminaire diocésain.
D'accord. Alors la pastorale des vocations continue selon une convention dont j'avais parlé l'an dernier, que nous avons signée avec le diocèse de Luçon, qui met à notre disposition un prêtre d'une association sacerdotale de Luçon qui s'appelle la Compagnie Saint-Jean-Paul II et qui a mis en place des cycles de discernement pour les jeunes, pas forcément qui veulent une vocation spécifique, mais qui veulent se demander ce que Dieu veut pour eux à partir de la vocation fondamentale, qui est celle du baptême. Et donc le cycle Saint-Jean-Paul II pour les garçons, le cycle Sainte-Thérèse pour les filles. Et donc, depuis un an, j'ai envoyé l'abbé Louis Le Grel, qui fait partie du service de vocation, se former à ce cycle Saint-Jean-Paul II. L'abbé Fabien Damet va le rejoindre cette année pour cette formation à raison d'un week-end par mois, qui a lieu plutôt à Luçon, et qui lui-même a mis en place un cénacle de prêtres pour approfondir la mission vocationnelle au sein du diocèse, la prédication vocationnelle, dont Alexandre faisait partie d'ailleurs, et je me souviens que quand ils avaient fait le débriefing de leur année, qu'est-ce que ça avait apporté, je me souviens encore de, j'étais présent à cette dernière rencontre, et je me souviens d'Alexandre Bledot disant, moi ça m'a aidé à approfondir le sens de la sainteté sacerdotale. Bon, voilà. On a comme ça des petites phrases qu'on a récupérées qui convergent. Donc là, il y a deux prêtres qui se forment à ce cycle de discernement. Le cénacle qui essaie de rejoindre les jeunes avec une prédication vocationnelle, donc qui est chargé de discerner des missions vocationnelles au sein du diocèse. Et puis un prêtre, l'abbé Sange-Françu, que j'envoie se former au cycle Sainte-Thérèse pour les filles. Sachant que les jeunes du diocèse aujourd'hui qui voudraient faire ce cycle, il y en a quelques-uns, mais c'est confidentiel, donc on n'a pas à savoir qui le fait, ils suivent ce cycle à Bordeaux parce que la convention signée par l'archevêque de Bordeaux avec le diocèse de Luçon a pour objet de monter dans notre Aquitaine, dans notre province de Bordeaux, un parcours commun. Voilà, on en est là. Pour le diocèse, ben, je vois en effet qu'il y a des jeunes qui suivent le cycle Saint-Jean-Paul II. Il y a des jeunes déjà qui désirent entrer au séminaire, mais ils sont très jeunes et pour l'instant, on leur propose de faire quand même des études. Donc il y a déjà des petits fruits qui naissent. Pour cette année, les trois qui étaient en propédéutique l'an dernier ont été admis en première année, donc on demandait à rentrer en première année. Les trois qui ont fait le premier cycle sont partis en stage. Donc il y en a un qui est à Grenoble, à l'Arche. Un deuxième qui est en paroisse à Naye, et un troisième qui fait l'expérience du Rocher à Bondy, dans la région parisienne. Donc ça, c'est au contact des périphéries, mission qui a été montée par un ancien de l'Emmanuel, hein, consistant en une oasis de catholiques, mais au service des jeunes des banlieues, etc.
Et donc il y a des propédeutes aussi cette année.
Il y a deux propédeutes qui sont entrés en première année, voilà, qui sont africains, envoyé par un prêtre français, Fidonum, qui est au Congo, mais qui veulent rentrer dans le diocèse. Voilà, on en est là pour l'instant.
Il y a presque retraité qui entre au séminaire.
Ah, mais oui, oui. Alors, un retraité.
Ça veut dire qu'on peut avoir la vocation à tout âge.
Il s'agit d'un homme qui a été au séminaire quand il était plus jeune, qui pour des raisons familiales avait quitté lui-même le séminaire, mais qui n'avait jamais été heureux. Exclu du séminaire, par contre, il était dans la région des Pays de Loire. Et aujourd'hui, il a discerné, d'abord à travers des retraites, puis avec l'abbé Philippe Beitia, d'abord, qu'il pourrait aussi, malgré son âge, de bientôt jeune retraité, être prêtre. Et moi, j'accueille cette demande avec tout à fait bienveillance, avec les formateurs du séminaire, et donc tout en continuant à travailler, autrefois il y avait les GFO, hein, les GFU, les groupes de formation ouvrière ou les groupes de formation universitaire, eh bien il met le pied à l'étrier. Voilà. Alors il n'est pas au séminaire et on ne demandera pas à un homme de 59 ans de vivre la vie du séminaire avec des jeunes de 25 ans. C'est évident, il faut s'adapter. Mais voilà, il est en chemin.
Et donc l'autre séminaire, le séminaire Redemptoris Mater d'Anglet,
qui accueille aussi deux propédeutes. Et donc il y en a deux qui sont partis en stage après la fin de leurs études. Miguel Andrel, qui est en stage pour l'instant avec moi, et Jérôme, qui lui part en stage à Madagascar. Voilà. Donc c'est ceux qui seraient ordonnables dans les temps qui viennent.
Au total, entre les deux séminaires, ça fait combien de jeunes ou de moins jeunes?
Je pense que ça fait en tout, si on compte les propédeutes, ça doit faire 21 ou 22. Mais là, je n'ai pas un chiffre. Je ne m'avance pas trop parce que le péché de David a été aussi de vouloir compter ses troupes.
Nous vous retrouvons dans quelques instants, Monseigneur Hayé, nous parlerons de la vie du diocèse.
Écoutez Radio Lapourdi Iratia en numérique en DAB+, sur la côte basque et le sud des Landes.
Nous terminons cette émission avec vous, Monseigneur Marc Caillet. Alors, cette année, il y a eu une visite fraternelle dans notre diocèse. Donc, Monseigneur Héroard est venu nous visiter, c'est-à-dire qu'il a reçu vos collaborateurs et d'autres personnes. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette visite ?
Je n'ai pas de nouvelles pour l'instant. Je le vis de façon très paisiblement parce que je suis abandonné à la volonté de l'Église, à la volonté du Seigneur qui passe par la volonté de l'Église. Cette visite a eu lieu de la première semaine de juin, la première semaine de juillet. Monseigneur Héroard a été missionné pour entendre mes collaborateurs proches et clercs et laïcs, des responsables diocésains et d'autres personnes qu'il a désiré recevoir ou qui ont désiré le rencontrer. Moi-même, j'ai été reçu à la fin de la visite. Donc il m'a exprimé les quelques reproches qui provenaient de plaintes qui sont parvenues au Saint-Siège, comme j'ai dû l'expliquer déjà au début de la visite. J'ai pu répondre sereinement aux questions, dans une rencontre qui a duré à peu près 2h30, où ça s'est passé dans un climat tout à fait apaisé et fraternel, puisque c'est le nom de cette visite. J'ai fourni un mémoire écrit, en gros de 46 pages, avec des annexes en plus, que j'ai adressé directement au préfet du dicaster pour les évêques, puisque c'était le dicaster qui avait demandé cette visite, et dont j'ai envoyé la copie au nonce. Voilà. Le nonce que j'ai rencontré lors de l'ordination du nouvel évêque d'Agen, à laquelle j'étais pour accueillir un nouvel évêque dans notre province, m'a remercié pour avoir envoyé ce mémoire, qui donnait quand même une vision aussi qui méritait d'être entendue. Et bon, il avait l'air de minimiser les problèmes, enfin. Voilà, en me disant, ça, vous aurez des petits conseils sans doute, mais je n'ai pas de nouvelles. Je sais que le temps romain est long, je sais qu'aujourd'hui on est en synode des évêques, donc je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter, mais j'aurai sans doute des nouvelles dans les semaines ou les mois qui viennent.
Donc en gros, ça peut être soit des recommandations, soit une visite apostolique. C'est ça les deux options ou...
Je ne sais pas. En principe, normalement, cette visite, elle vérifie le bien fondé des plaintes reçues, avec sans doute des recommandations. Il faudrait quelque chose de très grave, je pense, pour qu'une visite apostolique soit déclenchée. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit des choses très graves, même si... il faut entendre les petites choses qui sont dites. Voilà.
Votre état d'esprit a changé depuis cette visite fraternelle ?
Changé. Je suis pas démobilisé dans ma mission. Je suis attentif à certaines choses avec mes collaborateurs, d'ailleurs, parce que je n'ai jamais cessé d'être en lien direct avec mes collaborateurs, en particulier mon conseil épiscopal, bien sûr. Moi, je suis dans ma vocation, dans ma mission que j'ai reçue de l'Église avec mes défauts qui existent. On est obligé aussi de se remettre en question. Oui, que je puisse profiter de cette visite pour me remettre en question, ben ça c'est tout bénéfice pour moi-même et pour le diocèse. Après, je suis pas démobilisé, je continue. Je vois tellement de belles choses qui se passent dans le diocèse. Là, j'ai l'occasion de le voir à travers les installations de curés, des communautés qui sont toujours très accueillantes, sont toujours très, très disponibles ce qu'on peut leur dire et ce qu'ils peuvent vivre. Bon, je vois le congrès mission, je vois la pastorale des jeunes qui est à fond. Là, j'ai rencontré toute l'équipe avec le nouveau responsable qui est Jérôme Cangrand et le prêtre accompagnateur qui est Maxime Demain, qui est toute sa petite équipe. Je vois qu'ils sont mobilisés à fond. Je suis plutôt... confiant, pour ma part, dans la vie du diocèse, mais après, ça ne m'appartient pas. Je suis tout à fait paisible.
Du 13 au 16 septembre, c'était le pèlerinage diocésain à Lourdes avec l'HBB, l'hospitalité basco-béarnaise, où vous étiez du début jusqu'à la fin.
Oui, sauf le lundi. Sauf le lundi où j'étais absent. Mais de fait, oui, j'arrive le vendredi pour la... C'est ma son d'ouverture. Je suis toujours impressionné par ce, ce pèlerinage qui, dans le cadre du sanctuaire de Lourdes, est porté par une grâce particulière, qui est la grâce de Lourdes, hein, qui est à la fois une grâce de ferveur, qui est quand même très palpable à travers les célébrations, mais aussi à travers les gestes de Lourdes, les processions. Enfin, on voit aussi la ferveur des malades, de ceux qui les accompagnent, des
que l'on vienne ici en procession, c'était le thème.
En plus, c'était tout à fait parlant. Et puis aussi par la charité, hein, le service mutuel entre les malades et les bien portants. Il y a un climat de charité qui est indéniable. On a l'impression que c'est un moment de trêve aussi par rapport à bien des tensions ou des difficultés que peuvent exprimer les uns les autres. Pour moi, c'est toujours un grand moment le dimanche, parce que c'est l'occasion d'une messe de rentrée pastorale qui a précédé l'événement dont nous avons déjà évoqué, de la mort de l'abbé Alexandre. Mais c'est l'occasion de lancer un message pour la rentrée, qui est tourné vers la mission et tourné aussi vers le grand jubilé, sous le signe de l'espérance, auquel le pape nous convie à partir du 24 décembre prochain.
On vous a vu prier avec les séminaristes au pied de la Vierge couronnée. Qu'est-ce que vous avez demandé à la Sainte Vierge ?
Ben, nous disions les vêpres. Donc c'était plutôt un office d'action de grâce.
Alors il y a eu aussi une première en ce début d'année, c'est l'envoi en mission des chefs de service. Vous avez organisé une soirée à Orthès le 27 septembre dernier, où vous avez réuni tous les salariés et bénévoles autour de l'évêché pour cet envoi en mission.
Voilà, tous n'étaient pas présents, et pour donner aussi des lettres de mission, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des nouveaux responsables qui allaient recevoir une lettre de mission, et qu'on n'était peut-être pas très à jour. Parce que l'administration, moi je ne suis pas un évêque administratif, hein. Je suis plutôt un pasteur, je pense, de terrain. Et donc je me suis dit que c'était important parce qu'au fond, les responsables souvent ne se connaissent pas. Là, le diocèse est large et vaste. Il y a des responsables qui sont dans tel ou tel domaine, administratif ou pastoral, et qui n'ont pas beaucoup l'occasion de se rencontrer. Donc on y avait réfléchi au conseil épiscopal, et ça faisait un moment que je nourrissais le désir de faire une messe de rentrée, calquée un peu sur la messe de rentrée d'enseignement catholique que nous faisons tous les ans, avec la distribution des lettres de mission. J'ai dit, mais pourquoi il n'y aurait pas une messe de rentrée des services? Et donc ça fait un moment qu'on y pensait, et puis on a mis à exécution cette année, et avec la résolution que les responsables, parce qu'il n'y a pas que les responsables, mais aussi tous ceux qui sont au service du diocèse dans les différents services, qui étaient invités aussi, donc on était à peu près 70, je crois, ou 80, je ne sais plus. En tout cas, chaque année, deux fois par an, nous rencontrerons, avec le conseil épiscopal, les responsables de service, où il y aura aussi un temps d'échange. Voilà, une messe, un temps convivial et un temps d'échange. Et donc je pense que ça procède aussi, peut-être que ça vient aussi de la grâce du synode, hein, ça procède de cette démarche synodale, à laquelle on est invité en ce moment par l'Église.
Dans les chantiers aussi cette année, il y a justement les chantiers diocésains, les grands travaux à Pau et à Bayonne. Donc à Pau, ils ont commencé le 1er avril, à Bayonne, c'est pour bientôt, pour la rentrée janvier 2025, je crois. Est-ce que vous pouvez juste nous dire deux mots sur ces deux gros chantiers ?
Alors le chantier de la maison Saint-François-Xavier de Pau a commencé le 1er avril dernier, donc ça c'est en... J'ai visité le chantier très récemment et je vois qu'en effet, ça bosse. Hein.
Donc c'est l'ancienne maison des Jésuites qui est totalement rénovée
pour accueillir donc une communauté religieuse, les Chanoines de la Grâce, deux petits foyers d'étudiants et d'étudiantes, toutes les salles d'activité, de coworking pour les services, les mouvements, la TPA, etc., ce que faisait le CDB, mais avec beaucoup plus d'espace quand même là.
Le centre diocésain du Béarn.
Voilà. Et puis aussi la maison des Familia, hein, pour les blessures de la famille. Donc là, c'est un peu plus ouvert sur, j'allais dire, les périphéries. Et aussi des appartements pour avoir des lieux de revenus qui permettent aussi de participer au fonctionnement de la maison. Donc je pense que c'est un beau projet qui est en... Alors c'est sûr que là, la vente du centre du Saint-Duberne, du CDB, et de la maison François-Henri qui accueillait autrefois les prêtres âgés, ne suffira pas à couvrir les frais. Donc il faut faire un appel à mécénat, etc. Donc on est déjà en bonne posture pour recevoir des dons. On a reçu des dons conséquents déjà. Par contre, pour ce qui est de Bayonne, la maison diocésaine nouvelle, donc le permis de construire modifié est en cours de reconnaissance. La BF a déjà donné un avis favorable, donc ça devrait advenir dans les semaines qui viennent, les jours ou les semaines qui viennent. Et donc le premier coup de pioche, je pense, sera pour début janvier 2025. Alors que la maison François-Xavier à Pau devrait être livrée fin 2025. Là, c'est plus l'idée, c'est davantage une réduction, hein, comme on le sait, des surfaces utiles à la mission, sachant que notre ancienne maison diocésaine et nos autres bâtiments annexes sont un gouffre financier pour le diocèse. Donc il y aura une réduction des coûts de fonctionnement, évidemment, une mutualisation des coûts et des services par le regroupement de toutes les forces vives, on pourrait dire, du diocèse au niveau administratif et pastoral, ce qui permet, dont l'objet est aussi une plus grande communion, hein, une plus grande rencontre entre les différents acteurs pastoraux et administratifs de notre diocèse.
Vous-même, vous serez aussi dans cette maison.
Et moi, je serai dans cette maison. Hein, donc c'est suffisamment vaste pour qu'on ne se marche pas dessus et qu'on ne soit pas là les uns sur les autres à s'épier ou s'espionner.
Voilà. Mais l'évêché ne ferme pas.
Alors non, on va donc mettre à disposition du rectorat de la cathédrale le premier étage de l'évêché. Je garderai d'ailleurs un lieu de rencontre pour près de la cathédrale. L'officialité sera au rez-de-chaussée, parce qu'elle est plus autonome que les autres services de César. La partie gauche sera utilisée par le rectorat. Au fond, ce qui sont les archives actuelles, on le remettra à disposition d'un commerce qui pourrait être bienvenu dans le réaménagement de ce centre-ville par la mairie. Et les autres bâtiments à notre disposition, comme celui de la communication, seront loués, sans doute à des professions libérales, parce qu'il y a des demandes aussi au centre-ville. Le rectorat sera ou bien vendu ou bien loué, de manière à avoir des revenus aussi qui permettront d'aider au fonctionnement de la maison diocésaine et qui amoindriront les coûts de fonctionnement actuels.
Là aussi, ce projet est financé par la vente.
Il est financé complètement par la vente
de la maison diocésaine actuelle.
Normalement, c'est une opération blanche. Hein, donc, on ne prendra pas sur la trésorerie et on va éviter le plus possible également de le faire sur Pau.
Comme tous les 25 ans, l'Église convoque une année sainte, un jubilé. Le pape a annoncé son thème.
Oui, pèlerin de l'espérance. C'est un beau jubilé comme tous les jubilés. Comme je l'ai dit au catéchiste, la journée de rentrée, une année jubilaire dans l'histoire du jubilé depuis 1300, le pape Boniface VIII, mais qui a été précédée par d'autres initiatives des papes comme des grandes journées du pardon et qui s'inspire évidemment de la pratique jubilaire de l'Ancien Testament, c'est une année pour remettre les pendules à l'heure. C'est une année pour remettre les dettes. Alors le pape Jean-Paul II et à sa suite le pape François demandent au niveau international que les pays riches remettent la dette des pays pauvres, hein, qui est une initiative qui est toujours très importante. Mais c'est remettre la dette au sens du Notre Père, remettez-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs, qui est devenu pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et donc je pense que c'est un temps de conversion qui veut aboutir à une réconciliation avec Dieu et avec nos frères. C'est pourquoi le pape remet la confession individuelle au cœur même de ce jubilé, comme dans tous les jubilés, et même l'indulgence, qui est la dernière arme de miséricorde de Dieu vis-à-vis de nous, vis-à-vis des âmes du purgatoire, et qui nous est proposée pendant ce jubilé. Voilà, c'est une manière de réconciliation. Et je pense que c'est le plus grand signe d'espérance que nous puissions donner au monde. Et en effet, le pape nous demande de donner trois signes d'espérance qui seront l'œuvre de la grâce de conversion dans des cœurs. Un premier signe d'espérance qui est la paix. Alors la paix dans le monde qui est tellement menacée par les guerres qui se déploient aujourd'hui à l'échelle internationale, mais qui est aussi l'apaisement des conflits dans lesquels nous pourrions être engagés dans nos vies personnelles, familiales et ecclésiales. Le deuxième signe d'espérance, c'est l'ouverture à la vie, sur lequel qu'il a souligné très particulièrement. On l'a entendu encore à Bruxelles récemment sur cette question. Et le troisième signe d'espérance, c'est le souci de tous ceux qui sont en détresse, les malades, les détenus, les migrants et réfugiés, les pauvres sous toute leur forme. Voilà. Et donc, c'est une belle année qui s'annonce.
Alors, concrètement, dans le diocèse, qu'est-ce qui va être proposé aux fidèles? Il y a déjà la pastorale des jeunes qui va participer au jubilé des jeunes, je crois que c'est au mois de juillet.
Voilà. Oui.
Et après, est-ce qu'il y a un nouveau directeur diocésain pèlerinage? Est-ce qu'il va organiser...
Alors, on a déjà prévu de participer aux pèlerinages des familles, au jubilé des familles à Rome, au jubilé des séminaristes et des prêtres, fin juin, au jubilé des ados, organisé par le Mouvement public et le Mouvement catholique. Je me joindrai à eux d'ailleurs pour y participer, ils me l'ont demandé. Et au jubilé des catéchistes, sans doute en septembre aussi. Voilà, je crois que je n'oublie rien, mais...
Et donc la cérémonie d'ouverture sera dans notre diocèse.
Dans le diocèse, aura lieu à la demande du pape dans toutes les cathédrales, quand lui ouvrira la porte sainte de sa cathédrale, qui est Saint-Jean de Latran, ayant ouvert la porte sainte de Saint-Pierre de Rome le 24 décembre au soir, mais ce sera le 29 décembre. Donc on fera un petit pèlerinage, depuis peut-être Saint-André, je ne sais pas, on verra, jusqu'à la cathédrale, où à travers une messe, on ouvrira le jubilé dans notre diocèse.
Ouverture du jubilé dans le diocèse le 29 décembre. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur Marc Caillé. Merci beaucoup, Violaine Ricourt-Dumas. Et vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Radio Présence et de Radio Lapourdie, et sur le site diocésain.